Permettez-moi d'interrompre cet épisode 60 secondes. J'ai un message important pour vous. Atteindre 10 000 euros de revenus mensuels stables et prédictibles, même si vous démarrez de zéro, cela vous semble impossible ? Bonne nouvelle ! Du 30 avril au 5 mai, nous organisons le plus grand événement en ligne francophone de l'année pour les entrepreneurs. Le challenge entrepreneurs.com. 100% gratuit, 5 jours intensifs pour propulser votre business. Chaque jour, vous aurez accès à des sessions live exclusives avec des experts de renom. Ce n'est pas juste un événement en ligne, c'est une chance de faire un vrai changement grâce à des conseils et des méthodes prouvées. C'est une opportunité d'échanger en live avec mon équipe et moi pour faire avancer votre projet. C'est la garantie d'évoluer et de progresser dans un environnement sain et profiter d'une communauté unique. Je vous invite maintenant à réserver votre place. Pour en savoir plus et vous inscrire gratuitement, consultez notre site podcastledeclic.fr ou cliquez sur le lien dans notre bio Instagram. Merci pour votre confiance et maintenant, place à notre épisode du jour.
Il faut accepter que les choses prennent du temps. Sur les réseaux, en plus LinkedIn, YouTube, on parle que d'overnight success, de chiffres incroyables en un temps record. Non, non, les choses prennent du temps. Acceptez-le et accrochez-vous. En tout cas, si vous êtes assez passionné, quand vous êtes à votre place et quand vous faites la chose que vous devez faire dans votre vie et la chose pour laquelle vous êtes faite, vous le sentez au fond de vous. Quand les temps sont durs, quand il y a des tempêtes, si tu te dis de toute façon, je pourrais rien faire d'autre et je serais nul ailleurs et là, je sais que je vais finir par être bon même si ça prend du temps, ça te donne le supplément d'âme qu'il faut pour continuer et écrire une belle histoire.
Au quotidien, j'ai l'opportunité de rencontrer des entrepreneurs et personnalités. Leur point en commun, le succès s'est manifesté dans leur vie. Cela m'a confirmé que la réussite tient parfois à une seule décision. Je suis Alec Henry et l'objectif de ce podcast est de vous inspirer et vous offrir à votre tour le déclic qui fera toute la différence. Salut Maxime, comment tu vas ?
Salut Alec, super et toi ?
Eh ben écoute, en pleine forme, merci de m'accorder un petit peu de ton temps, merci d'avoir accepté cette invitation. On va vraiment faire un épisode super sympa. Donc on est ici avec Maxime Blondel de The Secret Company et plein d'autres super projets dont on va parler ici aujourd'hui avec un parcours inspirant. Ça fait se faire depuis l'âge de tes 18 ans que tu es aujourd'hui entrepreneur. Donc ça fait 9 ans. Il y a énormément de choses qui sont passées dans ton parcours. On va en parler dans quelques instants. Mais pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux rapidement te présenter ?
Oui, bah merci pour l'invitation Alec. Je m'appelle Maxime Blondel. Mes potes m'appellent Blondie. Ça fait 3 ans que je dirige une société qui s'appelle The Secret Company, à peu près 3 ans. On est un startup studio avec une thèse autour du bootstrap, de l'autofinancement. Qu'est-ce que ça veut dire startup studio ? Ça veut dire que tous les 12 à 18 mois, on se met autour de la table avec mes associés et mes équipes et on va identifier des problématiques qui nous intéressent et qu'on trouve grandissantes et pas totalement résolues. Ça va nous donner des idées de startup ou des intuitions de produits pour résoudre ces problèmes-là. Et en fait, pour chacune de ces startups, on va essayer de trouver le CEO idéal pour la cofonder avec nous. Après, on va l'aider à trouver ses associés. Donc, c'est souvent un CTO, un CMO, un COO. Et on va pendant 12 à 18 mois itérer avec lui pour, terme un peu barbare, mais trouver le product market fit de sa startup et, si possible, débloquer l'attraction. En bref, débloquer la croissance et avoir un produit que ses clients adorent. Et pourquoi pas, au bout de, en général, 24 mois, si besoin, parce que ça reste un outil, l'aider à lever des fonds pour accélérer. Mais uniquement une fois qu'on a validé toutes ces hypothèses qui sont trouver le product market fit, etc. Et ça fait 3 ans que je fais ça. Avant ça, j'ai travaillé pendant 2 ans dans un accélérateur de startup assez connu qui s'appelle The Family. C'est clairement là que j'ai fait mes armes, où j'ai appris pas mal de choses. Et avant ça encore, j'ai monté 2-3 boîtes différentes. La première que j'ai plantée et la deuxième que j'ai réussi à revendre. Et c'est comme ça après que je suis rentré à The Family pendant 2 ans. J'ai aidé des startups plutôt sur la partie les très jeunes entrepreneurs, les moins de 20 ans, les étudiants concrètement. Et depuis 3 ans, The Secret Company. Voilà.
Ok, magnifique. Super intéressant par rapport à tous ces éléments. Un autre sujet, toujours par rapport à ton parcours, vu qu'on est ici dans le podcast Le Déclic, qu'est-ce qui t'a donné envie justement de te lancer dans l'entrepreneuriat et donner la foi de continuer à l'être ?
Je pense que je suis plus un artiste à la base. Moi, je suis rentré dans l'entrepreneuriat par la porte d'Internet. Donc d'abord, j'étais un gros gamer, tu vois, je jouais beaucoup à Guild Wars. C'est un peu sur ce genre de jeu multijoueur où j'ai appris ce que c'était de mener une quête à bien, la négociation pour vendre des artefacts, acheter des artefacts, etc. Donc jusqu'à mes 18 ans, c'est plus en ligne via les jeux vidéo. Et après, quand je dis artiste, c'est plus par la musique. J'ai beaucoup composé des morceaux de guitare, de voix, etc. Donc j'étais plus intéressé par la création à proprement parler que par l'entrepreneuriat. Et en fait, à force de créer des choses, donc tu vois, j'ai d'écrire des musiques. Concrètement, j'avais un groupe de rock à l'époque au lycée. Sur Internet, je me suis rendu compte qu'on pouvait créer plein de choses. Donc, j'avais un blog un peu en secret que je tenais, un Twitter en secret que je tenais. J'ai commencé à écrire un livre. J'ai jamais envoyé une maison d'édition ni jamais publié, mais c'était pour moi. J'aimais plus en fait créer des choses, c'est-à-dire prendre ce que j'avais dans la tête, une idée, former et essayer de la rendre réelle et de la façon la plus authentique que ce que j'avais dans la tête. C'est plus ça qui m'a intéressé. Et après, en fait, via Twitter, via les réseaux, j'ai découvert ce qu'étaient les entrepreneurs et j'ai trouvé que le jeu des startups était un jeu marrant. Enfin, le jeu des business en ligne, on va dire.
Ok, je vois, ouais. Ouais, c'est vraiment une approche de l'entrepreneuriat par le jeu, finalement une approche similaire à la mienne, parce que les MMORPG, les mondes persistants tels que Guild Wars, World of Warcraft ou Dofus, ouais, je les connais plutôt bien également, ayant ayant un parcours de gamer pendant près de 10 ans, 18 à 15 heures par jour. Donc je partage tout à fait la vision et la philosophie. Un autre sujet, tu disais, moi je suis plutôt un artiste. Je sais notamment dans ta bio Insta, tu mets voilà, artiste la nuit, entrepreneur le jour, CEO la journée. Comment tu arrives à concilier les deux justement pour rester efficace et performant tout en pouvant allouer du temps et de la passion dans ces deux tâches qui en nécessitent pour être bon?
Ouais. C'est un gros challenge. C'est une très bonne question que tu poses. C'est un peu un challenge de tous les jours, voire une remise en question perpétuelle. Mais j'en suis arrivé à la conclusion que pour être bon dans ce que je fais à The Secret Company, ça demande beaucoup de créativité. Parce que réussir une startup, il y a une grande part de hasard. C'est très souvent des erreurs de laboratoire qui vous font trouver le fameux product market fit et qui vous font en fait innover. C'est très souvent des erreurs de laboratoire. Donc, il faut créer pour ça un univers et un environnement de chaos pour maximiser tes chances d'arriver à ce heureux hasard. Et en fait, j'en suis arrivé à la conclusion que faire des choses à côté de mon travail, entre guillemets, tu vois, continuer de composer, continuer d'écrire, faire des choses très perso, artistiques, regarder beaucoup de films, toutes ces choses-là, en fait, nourrissaient ma productivité au sein de Secret Company au final. Donc, je me suis beaucoup torturé par rapport à ça et j'en suis arrivé à la conclusion que si je vivais dans le kiff de façon générale, et mon kiff c'est de créer aussi des choses pour moi uniquement, de façon très égoïste, donc des sons, etc., j'étais meilleur au travail. Voilà.
C'est un constat super intéressant, aussi déroutant soit-il finalement, parce qu'on entend tout et son contraire à l'égard de la productivité, à l'égard de Pareto, fais une douche froide le matin, fais ci, fais ça et autres pour réussir, alors que finalement c'est qu'une question de se connaître. De savoir identifier qui l'on est, ce que l'on veut réellement, ce en quoi on est bon, ce qui nous stimule et ce dont on a besoin. Ouais. Aujourd'hui, je pense que tu es aussi dans une phase, et on va en parler tout à l'heure, de ton parcours entrepreneurial où ta force, c'est justement d'avoir la vision, d'avoir de la créativité, de pouvoir penser out of the box et de pouvoir connecter, créer des connexions, des relations et faire en sorte de rendre possible des choses qui ne l'auraient pas été sans ton réseau ou sans justement cette efficacité que tu as à être le liant de tout ça. Et qui fait que dans ce contexte-là précis, ça apporte vraiment de la valeur, alors que dans un autre contexte, peut-être pour certaines personnes qui ne sauraient pas forcément le gérer ou qui n'auraient pas les mêmes besoins et le même positionnement, ça pourrait en retirer. Super intéressant comme constat.
Pour rebondir là-dessus, Alex, c'est ce mois-ci là d'octobre, c'est la leçon entrepreneuriale que vraiment j'ai tirée pour diverses raisons. Et pour des raisons de structuration en interne aussi, j'ai dû réfléchir à qui était le plus efficace, à quelle place en fait, et quel était l'intérêt de chaque personne dans la structure. Et en fait, j'en suis arrivé à la conclusion qu'il n'y a rien de plus puissant que la stratégie du kiff. Moi, si je veux être heureux en tant qu'entrepreneur et donc performant sur le long terme, il faut que je cultive un peu ce chaos, il faut que je nourrisse cette créativité. Là où j'ai des associés, tu vois, qui sont beaucoup plus dans des délires de productivité, comme tu racontes, ils ont besoin de structure, de processisation, de douche froide, de routine. Moi, le moins j'ai de routine, meilleur je suis. Mais au final, tu vois, je me rends compte que eux, leur kiff est dans la structure, moi est dans l'anti-structure. C'est vraiment ça. Je pense le secret, c'est d'arriver à kiffer le plus longtemps possible ce que tu fais et tu finiras forcément par avoir un heureux hasard, entre guillemets.
Mmh. Ouais, non, mais 100%. 100% et je vois exactement de quoi tu parles, et c'est finalement savoir se connaître et jouer avec tes forces et tes faiblesses de ta personnalité propre et des compétences. Ouais. Donc non, c'est super intéressant. Et justement, pour ceux qui nous écoutent, à l'heure actuelle, avant de rentrer dans le vif du sujet avec pas mal d'éléments dont j'ai envie de te parler aujourd'hui, est-ce que tu peux nous en dire plus sur tes projets, sur tes boîtes actuelles, quelques chiffres sur ces trois dernières années pour qu'on situe et que les gens se disent « Ah ouais, Blondie, il envoie du... il envoie quand même.
» Ouais, avec plaisir. Quand j'ai démarré The Secret Company, ça ne s'appelait pas The Secret Company. On voulait faire un modèle d'entreprise qui est un peu particulier, qui s'appelle une Muse Factory, c'est-à-dire une sorte d'usine à mini-business en ligne qui sont passifs. On a fait ça pendant un an et on s'est rendu compte très rapidement que, en fait, sur 10 projets qu'on a testés en simultané, il n'y en a eu que 3 qui ont eu ce fameux product market fit, et que dès qu'un projet avait un product market fit, l'ambition vient en marchant et tous finissaient par venir, enfin, tous les CEO avec qui on avait cofondé ces boîtes venaient nous dire « Ouais, mais finalement, j'aimerais peut-être bien lever des fonds, je sens que je peux faire plus qu'une muse, j'ai envie de faire plus qu'une muse, je sens que ce projet, c'est un peu mon projet de vie. » Et c'est comme ça que j'en suis venu à créer un startup studio, qui n'était pas du tout quelque chose que j'avais imaginé à la base. Enfin, tu vois, essayer de faire un startup studio à 27 ans, je rigolais avec un ami la dernière fois. C'est insolent un petit peu.
Ouais.
Et en fait, c'était pas une ambition de ma part. C'était vraiment, je suis tombé dessus par hasard. Et en fait, je me suis vraiment pris au jeu. J'ai adoré. Donc maintenant, ça fait 3 ans quasiment. Pour te donner un petit peu de contexte et de chiffres, on a dû tester une grosse trentaine de projets. Il y en a une petite dizaine qui est toujours en vie aujourd'hui. Le revenu annuel récurrent cumulé de cette dizaine d'entreprises vient de dépasser les 20 millions d'euros. Et on est très heureux. Et là, tu vois, cette année, je peux te parler des 2 projets des 12 derniers mois. Le premier s'appelle Mobula. C'est une tech, c'est un data aggregator pour les investisseurs dans la finance décentralisée. Donc c'est plus ou moins schématiquement un concurrent de CoinMarketCap, mais décentralisé, avec d'autres fonctionnalités, d'autres parties pris, et ça se passe plutôt bien pour nous. On est content, en tout cas après 12 mois comme ça, là on est à 100 000 visiteurs uniques par mois, 100 000 utilisateurs par mois, et on est content. Il y a une belle traction, notamment en Asie. Et on a cofondé également il y a 12 mois tout pile Freeland, joinfreeland.com, qui a pour ambition de devenir le plus grand groupe d'écoles online au monde sur des métiers d'avenir et qui sont en pénurie actuellement. Donc on crée des écoles sur plein de sujets d'avenir qui sont formés à devenir monteur vidéo, consultant SEO, virtual assistant, etc. C'est les 2 projets des 12 derniers mois. Les 2 ont des très belles tractions et j'ai l'intime conviction qu'ils vont aller loin.
Mmh. Ouais, je connaissant d'une part l'industrie du premier et connaissant très bien le second, c'est vrai que c'est super intéressant votre approche. Et moi, ce que j'apprécie tout particulièrement dans l'approche, notamment de Freeland, ayant travaillé aussi avec les équipes de Freeland, c'est que tu ressens vraiment l'ADN, la vibe, la créativité, l'envie du modèle startup, la jeunesse aussi, la fraîcheur, la dynamique du modèle startup, mais en même temps, la perspicacité, la logique et la performance du besoin bootstrap d'une startup telle que vous mettez en place, et donc du cash flow qui est nécessaire. Alors que, tu vois, dans trop de projets, tu as cet ADN startup, mais t'as pas ce côté il faut qu'on soit rentable et vite et dès le mois prochain en fait, tu vois, donc
ouais, mais c'est clair. Mais tu sais que c'est marrant parce que on a du coup cofondé mais il y a plutôt 24 mois une on peut dire une startup qui s'appelle Minea.com, qui est un logiciel SaaS pour les e-commerçants, pour les aider à prendre des meilleures décisions marketing, pour faire très très schématique.
Je te coupe, mais sauf erreur, Yomi est au capital de cette
exactement
solution également. Ok, ouais, je vois dont
tout à fait
tu parles.
Okay. Et en fait, j'ai quand même découvert il y a 24 mois tout ce monde, j'avoue que je connaissais pas du tout, du dropshipping, des infopreneurs, au final de Dubaï, pour parler concrètement. Et en ce moment, je suis en train d'écrire un article de blog que je vais sortir bientôt, qui liste un petit peu tout ce que les start-upeurs devraient apprendre de ces gens-là, tu vois, des gens des muses et du dropshipping et des infopreneurs, qui sont hyper pragmatiques, qui investissent des milliers d'euros par an en formation et qui, en fait, sont beaucoup plus riches que la majorité des start-upeurs que je connais. Et à l'inverse, qu'est-ce que pourraient apprendre les dropshippers, les infopreneurs des start-upeurs en termes d'ambition notamment? Et je trouve que les, en fait, les, ces deux communautés se parlent très peu, mais elles devraient se parler. Et nous, c'est un peu le pont qu'on essaie de faire avec The Secret Company. Un startup studio avec une thèse de bootstrap, d'autofinancement. Au fond, c'est ça. C'est, on essaye de faire des produits tech, donc des produits de startup, des logiciels SaaS, des marketplaces, mais avec le pragmatisme de ces businessmen un peu nouvelle génération que sont les dropshippers et les infopreneurs.
Totalement. Connaissant les deux mondes, clairement, ton article va faire beaucoup de bien, je pense, parce que moi-même, je l'ai ressenti. Hein, des fois, je parlais avec des gens issus de la startup. Ils nous voient, nous, infopreneurs, limite comme des charlatans. Et de l'autre côté,
complètement.
Et c'est très drôle parce que finalement, comme tu le dis, voilà, je connais beaucoup de start-upers qui finissent broke ou n'arrivent pas à s'en sortir malgré des projets incroyables, mais n'ont pas de modèle économique rapide et profitable parce qu'ils n'ont pas forcément les bonnes stratégies, etc. Et de l'autre côté, c'est plutôt l'inverse. Certains infopreneurs et commerçants qui parfois génèrent des centaines de milliers d'euros de bénéfices par mois idéalisent et idolâtrent le modèle startup et certains start-upers parce qu'ils ne voient que ce qui brille, tu vois. Ils ne voient que les grands chiffres, ils ne voient que le montant de la série B, de la série C qui a été levé ou même de la série A, ou parce que tu vas travailler avec un fonds, un VC, un ci, un ça, t'es tout de suite un gros, alors qu'en réalité, on sait tous les deux que oui, ça aide, c'est certain, mais le schéma, il est pas aussi idyllique que certains pourraient le penser. Donc, je pense que ça va être intéressant de lire cet article, effectivement.
En fait, les deux ne voient que la façade de l'autre. Ouais. Si le monde du dropshipping, des infopreneurs, lisait entre les lignes de l'univers startup, il verrait qu'en fait, c'est un schéma de vente assez classique. C'est des entrepreneurs qui vont voir des investisseurs et qui vont les convaincre de leur donner un montant X de levée de fonds contre un pourcentage X de leur startup en pourcentage de leur boîte d'equity. Et qu'en fait, c'est un acte de vente comme un autre, comme vendre un produit sur un site e-commerce ou vendre une formation. Et s'ils se rendaient compte de ça, je pense qu'ils auraient beaucoup moins peur de tout ce monde et ils idolâtraient beaucoup moins, comme tu dis, tout ce monde de la levée de fonds. Je pense que c'est ça qui leur fait peur, parce que c'est un monde qu'ils connaissent pas, donc ils n'arrivent pas à lire entre les lignes. Et de l'autre côté, si les entrepreneurs des startups lisaient entre les lignes de ce qu'ils estiment être bullshit et vendeurs de tapis côté infopreneurs et dropshippers, en fait, ils apprendraient que c'est des rois du marketing et je pense qu'ils devraient s'inspirer beaucoup plus de leur méthode. Et qu'en fait, c'est des brutes d'exécution, c'est juste qu'ils sont en général, ils ont peut-être pas le niveau d'ambition qu'il faut ou ils n'ont pas eu l'accès à la même éducation et aussi l'accès, on va dire, au même réseau pour avoir fait les mêmes écoles en fait que les investisseurs. Parce que c'est ça le fond du sujet. C'est que la majorité des startups qui lèvent des fonds, les entrepreneurs viennent des mêmes écoles que les investisseurs qui leur donnent l'argent. Donc, c'est un petit monde qui a un entre-soi. Mais tout ça s'ouvre. Et je pense que des deux côtés, c'est pour ça que c'est bien qu'il y ait quelqu'un qui fasse le pont et qu'il le dise surtout.
Totalement.
Tout ça s'ouvre. Les deux ont intérêt en tout cas à se parler. C'est toujours intéressant de parler à des gens qui te paraissent très différents, en tout cas.
Ouais, non, 100%, ça va nourrir les deux écosystèmes. Et justement, j'écoutais un podcast dans lequel tu es intervenu également, vous avez beaucoup parlé de Muse, visiblement, tu as été aussi beaucoup connu pour la partie Muse, et aujourd'hui, t'as fait cette transition modèle Muse, modèle startup, t'as rapidement survolé le sujet il y a quelques instants, en disant que ça venait en partie des entrepreneurs avec lesquels tu échangeais, tu discutais ou tu travaillais et que disais, voilà, moi, ce projet, non, je ne le veux pas juste en étant une muse, je ne le veux pas juste en étant un petit projet qui va cracher du cash. C'est un projet de vie, c'est un gros projet, je veux pouvoir lever des fonds, je veux pouvoir aller plus loin, je veux le développer. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur cette transition modèle muse, module startup et les process qu'il y a derrière, la vision qu'il y a derrière?
C'est plus une réalisation, c'est que on a commencé à faire des muses et on s'est rendu compte que, en fait, une muse, c'était la première année d'une startup qui réussissait. C'est-à-dire que tu trouves un business model, tu trouves un produit, tu trouves des clients, tu trouves ton fameux product market fit. Et après, c'est juste un sujet d'ambition et de plafond de verre. Il y a des muses qui, en fait, ne peuvent pas aller plus loin que 5 ou 10 000 euros par mois. Et c'est aussi un sujet de vision. Quand tu fais, je sais pas, tu lances une muse qui est, tu crées ton jeu de société et tu le distribues sur Amazon. Si tu le laisses tel quel, ça peut rester une muse et c'est très bien. Mais si tu te dis juste, en fait, pourquoi je n'essaierais pas de créer le leader de la création et de la distribution de jeux de société dans le monde, en fait, c'est là où tu passes à l'échelle startup, c'est-à-dire que tu développes un produit avec une ambition qui est internationale et tu peux totalement lever des fonds pour ce projet. Donc, je pense juste que c'est des barrières mentales et je pense tout simplement que on conditionne les choses et on les met dans les cases, mais les muses et les startups n'existent pas. Tu as juste d'un côté des business de services, ça c'est les agences, on va dire, et tu as des business de produits. Les entreprises de produits, derrière, que tu veuilles en faire un leader mondial ou un leader dans ta région, c'est ton choix. Mais les deux sont possibles. Et donc, leader dans ta région, c'est une muse. Leader mondial, c'est une startup. Aussi simple que ça, en fait.
Hmm. Ouais. On est aligné là-dessus, on est d'accord. Et un autre sujet, justement, quand tu te poses autour de la table avec tes associés tous les 12, 15, 18 mois pour te dire, OK, on va analyser le marché. On va identifier une problématique à laquelle on pourrait potentiellement répondre et on va voir, on va itérer et on va prendre ce projet, on va y trouver un CEO, on va y trouver un CTO, on va y trouver les personnes qui sont nécessaires au bon fonctionnement de tout ça pour pouvoir le déployer. Quel process justement vous abordez pour pouvoir valider l'idée, valider le positionnement global, valider la proposition de valeur potentielle, trouver les différents intervenants que vous allez trouver, que vous allez devoir chercher. C'est une question assez générale, mais est-ce que, justement, après ces 3 années, il y a des choses qui en ressortent et il y a des choses qu'on peut transmettre ?
Oui, la chose qui en ressort, c'est que c'est très difficile de se battre à contre-courant contre le marché. Parfois, on a eu des idées de start-up qu'on pensait... bonne, révolutionnaire, et qui en fait, quand on les teste dans la réalité, sur le marché, on se rend compte que tout est difficile. C'est difficile de convaincre les clients, c'est difficile de faire comprendre ce qu'elle produit. Et donc, quand c'est comme ça, parfois, il y a des besoins d'éducation marché, et pour ça, en général, il faut lever des fonds, et il faut avoir du temps devant soi. Mais souvent aussi, tu te rends compte que, t'as essayé de faire un logiciel, tu vois, autour des qui aide les Airbnb à rentabiliser leur asset. Si t'es en période Covid, ça va être compliqué pour toi. Et la première chose qu'on regarde, nous, alors on a une vingtaine de frameworks pour identifier des problèmes ou analyser des tendances de fond dans la vie réelle et en extrapoler des idées de start-up potentielles. Mais ce qu'on regarde beaucoup, c'est les tendances de fond. Tu vois, quand on démarre Freeland, c'est pas du tout l'ambition de devenir le premier groupe d'école virtuelle au monde. À la base, Freeland, c'est une communauté pour freelance. Parce qu'on voyait que tout le monde voulait devenir freelance, on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire dessus, on avait une hypothèse sur le produit. Mais nous, quand on va chercher un CEO, on lui vend pas directement le product market fit trouvé. Ce serait trop facile et ce serait contre-productif pour... son aventure entrepreneuriale et son expérience à lui. On lui vend une intuition marché, une intuition produit, une intuition de positionnement et une intuition sur qu'est-ce qu'est un bon branding pour ce projet-là. On lui met tout ça dans les mains et après, on va itérer avec lui sur le terrain pour trouver le product market fit. Et cette recherche de product market fit, en fait, nous mène à des itérations et des pivots. Et tu vois, c'est le cas de Freeland. Ça a démarré sur une communauté de freelance, ça termine sur un groupe d'école virtuelle. C'est à la fois proche mais très lointain. Et donc c'est notre méthode. On a une méthode itérative. On part d'intuitions et les intuitions sont quand même extrêmement basées sur le sens du monde. On veut pas aller à contre-courant. Tu vois, en ce moment, faut aller vers le remote, le freelancing, la finance décentralisée, le Web3, les crypto-monnaies. On essaye quand même d'aller. En fait, on imagine le monde comme il sera dans 20 ans et on essaye de viser une idée qui dans 20 ans pourrait être un leader dont tout le monde se dirait, mais oui, c'est une évidence. Et c'est un peu ce qui s'est passé sur Airbnb. À la base, des mini Airbnb locaux dans plein de villes, par exemple en Espagne, Il y en avait plein des mini-sites web qui faisaient la même chose, qui faisaient de la mise en relation entre particuliers et villas. Mais donc, c'était un marché qui était complètement parcellisé. Donc, c'était, il était extrêmement éclaté. Et tu as un visionnaire, Brian Chesky, qui a dit « Je pense qu'on peut en faire un leader mondial. » Et au début, tout le monde lui rayonnait, que ce soit l'industrie de l'hôtellerie, l'industrie du voyage, probablement ses amis. Mais lui, il y a cru et je pense qu'il s'est juste projeté dans qu'est-ce qu'il imaginait serait la normalité dans 20 ans. Et après, pour le coup, il a travaillé très, très dur et très, très bien pour imposer à la force du poignet sa vision. C'est souvent ça, au final, si tu analyses les histoires des meilleures startups.
Mmh. Ouais, totalement. D'ailleurs, en ce moment, il y a 3-4 séries qui sont en train de cartonner sur Disney+, Netflix et qui se tirent la... qui se tire la balle justement entre l'histoire de Spotify, l'histoire de WeWork, l'histoire oui. de... Je sais pas si tu les as vus, mais c'est vrai que c'est exactement ça. Uber également. Et j'invite ceux qui nous écoutent à aller regarder aussi ces séries, parce que c'est riche en inspiration, riche en leçons. Et puis, on voit vraiment aussi, le même si bien sûr c'est scénarisé, on nous montre ce qu'on a envie de nous montrer, mais on voit quand même aussi le quotidien de l'entrepreneur qui lutte du coup contre tous, contre vents et marées et qui reste campé sur ses positions, sur ses idées, qui se dit « Ok, personne ne veut me croire, c'est pas grave, je vais quand même y arriver, je vais le faire, je vais aller chercher les investisseurs qui veulent bien croire ma folie et on avance en rendant ça possible. » Et il y a un autre sujet aussi qui est super intéressant, c'est que donc vous mettez en exergue le fait que vous mettez en place des projets qui s'autofinancent. La première ouais. année pour que la deuxième année vous puissiez aller scaler, et c'est un grand cadeau, tu as utilisé ce terme avant qu'on démarre le podcast, tant pour la société que finalement moi je trouve pour les investisseurs, parce que l'investisseur il sait que du coup il investit dans quelque chose qui est concret, qui a déjà fait ses preuves, qui a un modèle économique sain, viable, profitable ouais. et donc ça diminue considérablement son risque, ça augmente ses probabilités de succès et donc de retour sur investissement potentiel. Pour ouais. les gens qui nous écoutent et qui ont des projets ou qui ont actuellement une entité, un projet, mais qui ont de la peine justement à être profitable, rentable, démarrer en bootstrap pour utiliser un terme plus commun du monde de la startup, quels sont les différents signaux positif comme négatif, red flag comme green flag, à prendre en considération quand on veut justement mettre en place quelque chose de rentable, profitable, qui peut cracher de la renta pour financer notre croissance.
Donc la question c'est comment arriver à avoir en avance que tu vas jamais être rentable ?
Non, que tu vas l'être justement. Comment réussir à mettre en place des choses pour l'être le plus rapidement possible ? Parce que tu sais, j'ai eu tellement de gens qui malheureusement lancent un projet et qui, au travers d'une simple discussion, je me rends compte que leur truc, ça fait 6 mois qu'ils bossent dessus, jour et nuit, qu'ils essaient de trouver des clients et ci et ça. Et c'est même pas viable économiquement en y faisant limite une règle de 3 entre le coût, le marché, la viabilité de concept et la probabilité de succès du truc. Ils disent, mais écoute, même si toutes les planètes s'alignent là, au mieux, tu vas gagner 2 000-3 000 euros par mois et tu vas devoir tout gérer tout seul. Au pire, dans 3 mois, tu vas changer de projet, tu vas arrêter. Et pour toi et moi, tu vois, c'est presque logique et on le voit d'un coup d'œil parce qu'on a l'habitude. Mais pour beaucoup d'entrepreneurs qui démarrent et qui peut-être nous écoutent, c'est parfois difficile justement de trouver le bon positionnement et de se dire, OK, dans cette direction, je peux y aller plutôt les yeux fermés. Il y a des probabilités que ça marche.
Ouais, ouais. Je pense que la réponse est dans ta question et je vais faire un peu ta pub. Mais le secret en entrepreneuriat, c'est à mon sens la formation et investir dans sa propre formation. Si tu n'arrives pas à réaliser un tableau de prévision financière, par exemple, ou d'analyse de business model, ou de décortiquage de ce qu'on appelle tes unités économiques, tes unit economics. Quel est ton business model? Quel est ton seuil de rentabilité? Quelle est la lifetime value de tes clients et comment tu peux l'augmenter? Toutes ces choses-là, c'est des choses qui s'apprennent. Franchement, c'est à la portée de tout le monde. Il y a des ressources en ligne gratuites. Il y a des très, très bonnes ressources payantes. C'est pour ça, moi, que je défends autant les infopreneurs. Alors oui, il y a quelques escrocs, bien sûr. Mais de tous ceux dont on parle, qu'on parle de toi, de Yomi et de plein d'autres formations, tous ceux que j'ai vu suivre vos formations ont changé de vie et sont devenus beaucoup plus riches qu'ils ne l'étaient avant. Donc, il y a un moment, il faut se rendre à l'évidence. Oui, vos formations, elles sont chères, pour certains, peut-être, mais tous ceux que j'ai vu faire vos formations ou des masterminds, même un week-end à 15 000 euros, sont tous ressortis, changés et 6 mois plus tard, beaucoup plus riches. Il y a un moment, il faut se rendre à l'évidence. il faut juste investir dans son cerveau. Et à la limite, si vous n'avez pas envie de suivre une formation derrière votre écran, bon, pour le coup, il y a des boîtes comme des Secret Company qui existent, qui sont pour le coup comme des cofondateurs qui peuvent vous ramener à la raison, qui peuvent vous former, qui peuvent soulever les tapis à votre place quand on a tous parfois des petits dénis, quand c'est nos projets, qui est nos bébés, qui nous tiennent à cœur. Mais je pense qu'il faut s'entourer et il faut se former, c'est ça le secret.
Mmh. Ouais, je te rejoins effectivement sur la formation, sur le fait de s'entourer. L'entourage aussi, c'est hyper important. Et ça me permet de rebondir sur un sujet. Tu parles beaucoup en on, nous, etc. Donc, ouais. On comprend que derrière, il y a toute une équipe. Ouais. Je sais, comme toi, que voilà, sans une équipe, tu peux difficilement aller déplacer des montagnes et décrocher sommet après sommet. Comment t'as structuré aujourd'hui cette équipe ? Comment est structurée cette équipe ? Comment est-ce que tu les as rencontrés ? Parce que moi, je suis venu aussi dans vos bureaux là récemment à Paris. Ouais. Finalement, bon, c'était un contexte assez festif. Mais, mais j'imagine que des fois, on est aussi dans d'autres contextes et c'est certain. Mais on ressent vraiment qu'il y a une super énergie, que c'est une super bande de potes. Vous passez des bons moments et en même temps, vous construisez, vous travaillez de manière très sérieuse, vous faites de belles choses.
C'est gentil.
C'est vraiment assez sérieux, sincère et c'est vraiment un constat. Et pour beaucoup, tu vois, déjà, ils ont de la peine à construire leur équipe avec les bonnes personnes. Alors, que vous, bah, un, vous avez la bonne équipe, deux, visiblement, c'est les bonnes personnes parce qu'il y a vraiment, ça transpire la bonne vibration. Et en plus, du coup, vous êtes finalement une super bande de potes. Comment tu t'y es pris pour mettre ça en place ? Est-ce que c'est par la force des choses ? Est-ce que c'est parce qu'aussi vous êtes relativement tous jeunes entre 20 et 30 ans et que c'est la même génération et que vous avez tous cette même envie ? Ça peut être intéressant.
Yes, comment c'est construit ? Effectivement, moi j'étais seul au démarrage dans The Secret Company que j'ai cofondé avec The Family parce que c'était mon ancien employeur. Je les voulais dans le bateau et donc ils sont actionnaires de The Secret Company. Et au fur et à mesure, j'ai rajouté, effectivement, j'ai ramené dans le bateau 1, 2, 3, puis 4 copains en fait. On est cinq associés, donc il y a moi, Panam, Robin, Adams et Julien. On a chacun nos spécialités. On a tous entre 22 et 27 ans. Adams et Robin, je les connais depuis 7 ans, mais je les connais depuis à l'université. Je les ai rencontrés. On a fait ensemble des assos étudiantes. On organisait des événements. Julien, je l'ai rencontré via Internet. Et on a commencé à travailler ensemble d'abord en stage, puis en freelance. Et après, on s'est associés. Panam, c'est un copain de copain et que j'ai toujours trouvé très curieux et très bosseur. Et qui avait des qualités que moi je n'avais pas, c'est-à-dire la structuration, un cerveau d'ingénieur, l'envie d'automatiser, l'envie de productivité. On est à la fois très opposés mais très complémentaires. Et je me suis rendu compte que un startup studio avec l'ambition que je voulais la faire, c'était impossible à opérer tout seul. Et donc rapidement, j'ai proposé à l'un après l'autre de rejoindre le bateau en tant qu'associé. Aujourd'hui, dans l'équipe, on est une douzaine. Donc tu vois, on emploie à peu près 7 personnes et on fait très attention à qui rejoint le bateau. C'est un sujet de culture en fait. On se rend compte, comme tu dis, c'est une vibe, il y a une énergie et on fait très rapidement confiance, on fait très rapidement monter les gens dans le bateau, mais on les fait très rapidement redescendre aussi. Si on sent que ça fit pas, que ça colle pas, qu'il y a il y a trop de friction, gentiment on leur dit que voilà, ils sont pas à la bonne place, il y a probablement un meilleur bateau pour eux et que nous aussi on n'est pas forcément satisfaits. Et donc, on fait très, très, très attention à cette culture d'entreprise. Nous, la culture d'entreprise, c'est radicalité, bienveillance et travail acharné. Donc, radicalité, c'est dans nos prises de position. Tu vois, on est radicaux sur il faut bootstrap les 2 premières années parce que c'est un cadeau que tu te fais pour après potentiellement lever des fonds qui est en fait du fuel dans ta voiture pour accélérer, mais uniquement pour accélérer, pas pour itérer, pour trouver ton product market fit. Ça, il faut l'avoir fait avant, dans notre sens. Ça, c'est pour la radicalité. La bienveillance, parce que je pense qu'il y a un énorme premium à être, entre guillemets, enfin, je le dis, gentil. Tu vas te faire avoir quelques fois, mais sur le long terme, il faut être bienveillant, il faut être gentil dans la vie. Donc, on essaye de créer cet environnement bienveillant. Et enfin, ouais, travailler dur. Mais plus que travailler dur, même, c'est... Moi, c'était le critère, c'est mon critère de recrutement, c'est la courbe d'apprentissage. je sais que si les gens autour de moi n'apprennent pas assez vite, ça m'énerve et j'en deviens pas sympa. Et comme j'ai pas envie de pas être pas sympa et c'est pas bien d'être pas sympa, mon critère de recrutement, que ce soit d'associé, d'employé, de freelance, c'est la courbe d'apprentissage. Est-ce que je sens que ces personnes-là, et par des rapides tests que je fais les premiers mois où je travaille avec eux, est-ce que je sens que ils apprennent très très vite et qu'il n'y a pas besoin de se répéter, etc. C'est l'environnement qu'on essaie de créer en tout cas chez The Secret Company. Mais tu vois, il y a le kiff aussi, la stratégie du kiff, comme tu dis. T'es passé, bon, on faisait une énorme soirée. C'est important aussi de décompresser, voire même, tu vois, quand je te dis un environnement du chaos, les soirées, évidemment qu'on le fait pour kiffer, mais pas que, il y a une stratégie derrière. C'est qu'on sait qu'il y a des discussions que tu ne peux avoir que la nuit et quand tu es en train de faire la fête. Il y a des verrous qui se déverrouillent, justement. C'est tout ça est quand même très réfléchi, mais réfléchi autour de la stratégie du kiff.
Super intéressant justement d'avoir ta vision à ce sujet. Je rebondis aussi sur un autre point que tu as évoqué tout à l'heure, c'est tu disais voilà, les formations c'est super, des gens vont vous transmettre les clés pour éviter les erreurs ou pour avancer plus vite et donc apprendre. Il y a un autre moyen de se former outre les formations en ligne, le coaching, le consulting, c'est tout simplement de faire des choses et d'avoir un parcours riche. C'est ton cas. Et je voulais revenir sur deux parties de ta vie d'entrepreneur. La première, c'est que tu as lancé à un moment donné une startup qui était une sorte de LinkedIn competitor. Et au bout de 11 mois, malheureusement, ça s'est pas forcément passé comme prévu et ça s'est arrêté. Et tu en as tiré visiblement pas mal d'enseignements. Est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur ce projet? Qu'est-ce qui a fait que il n'a pas fonctionné comme tu le voulais? Et quels sont les enseignements qui ont découlé justement de cette phase?
Ouais, c'est vraiment tout ce qu'il faut pas faire dans une startup. C'est toutes les mauvaises raisons d'entreprendre. J'étais étudiant, je connaissais rien de la vie et donc forcément, bon, j'ai monté une startup d'étudiant, c'est-à-dire une application qui était un concurrent de LinkedIn, mais pour les moins de 25 ans, pour les étudiants et jeunes diplômés concrètement, parce qu'en fait, je ne connaissais que ça de la vie, les études et la recherche d'emploi. Donc bon, ça déjà, tu vois, je me suis lancé bien en tête dans un sujet qui me passionnait, oui, aider les autres à trouver du travail. Mais j'aurais dû le challenger en essayant de faire autre chose de ma vie et de probablement tester d'autres marchés, d'autres idées, d'autres problématiques à attaquer. Ça, c'est la première chose. Et au final, je pense que le fond du sujet, c'est que c'est des erreurs de débutants. Sur les 4 associés de The Young Economy, ça s'appelait, on était 2 à plein temps et 2 à mi-temps. Ça peut jamais marcher ce format-là. T'as forcément 2 qui sont énervés, qu'il y en ait 2 autres qui travaillent moins. Bref, ça crée un déséquilibre dans l'association et dans les relations. Sur les 4 associés, on n'avait pas de CTO, donc d'ingénieur, on n'avait pas de profil technique qui pouvait coder l'application, la plateforme, tout ça. Or, on était quand même une entreprise avec comme facteur clé de succès d'avoir un meilleur produit que LinkedIn et un produit plus utilisé. Mais quand tu peux pas au quotidien bâtir, rebâtir ton produit, itérer dessus, tester des nouvelles fonctionnalités, enlever des fonctionnalités, etc. et que tu es dépendant d'un freelance que tu payes à côté, ça peut pas fonctionner en fait. Ton facteur clé de succès, si tu l'externalises, ça fonctionne pas. Et nous, on l'avait externalisé, donc ça pouvait pas fonctionner. C'est pour ça qu'on a arrêté aussi vite. Au bout de 11 mois, tu vois, on avait plus d'argent. Et le problème, c'est que l'argent, comment on le gagnait, c'était pas avec nos clients. On faisait des concours de start-up, desquels parfois on gagnait 10, 20 000 euros, mais c'était tous les 4 mois. Ça nous prenait énormément d'énergie. On était hyper galvanisés parce qu'il y avait plein de jurys, mais de gens de chez Carrefour ou je sais pas quelle entreprise qui nous félicitaient. Mais c'était pas des entrepreneurs dans le jury. Et en fait, on était complètement à côté de la plaque. Tu vois, pour rassurer nos parents, on était une équipe, pour le coup, multiculturelle. Donc, ça plaisait beaucoup aux journalistes de nous mettre en couverture. On a fait Le Parisien, etc. Et en fait, on se satisfaisait d'articles dans la presse. On les partageait sur les réseaux. Et en fait, tous nos amis nous disaient, waouh, vous avez percé, etc. Nos parents étaient rassurés qu'on ait arrêté nos études. Mais c'était de la poudre aux yeux, en fait. Tout était fait à l'envers. Un entrepreneur, il doit trouver une offre, si c'est du service, ou un produit, si c'est une start-up, qui va plaire à des clients à tel point qu'ils vont payer et revenir payer plusieurs fois. Mais les articles dans la presse, on s'en fout. Tout ça, tous les concours de start-up, on s'en fout. Les subventions, on s'en fout. Normalement, si tu gagnes de l'argent, t'as pas besoin de tout ça. Donc, on a tout fait à l'envers et c'est pour ça qu'on a arrêté au bout de 11 mois.
Ok, je vois. Un sujet qui est intéressant aussi là, dans ce que tu as partagé, c'est quand même, il faut le dire, il faut le souligner et le féliciter, votre persévérance et le fait que vous arriviez quand même à aller, à pitcher, à gagner des concours, à vous refinancer, à avancer quand même. En revanche, un sujet super intéressant pour tout le monde, c'est que voilà, si ton facteur clé de succès est externalisé, tu vas droit dans le mur. Ouais. Et c'est vrai que le nôtre, moi, dans mon cas, il a toujours été internalisé, mais maintenant que tu le dis, j'ai vu beaucoup d'entrepreneurs l'externaliser et finalement se rendre compte que c'était vraiment pas du tout la bonne solution ou surtout, tu sais, quand t'es dans cette phase d'euphorie entrepreneuriale, t'as réussi un projet, deux projets. D'un coup, tu as toutes les idées du monde que tu te dis, c'est faisable, c'est possible, je peux le faire, je vais gérer, je vais recruter, je vais ci, je vais ça. Et tu arrives dans un marché où tu ne t'y connais pas du tout. Alors encore, si tu t'y connais pas du tout et que tu as le bon associé avec lequel avancer, qui lui s'y connaît parfaitement et t'apporte à pire l'édifice, ça peut le faire. Mais si tu externalises tout, ça va être complexe.
Ouais, tu as raison. Et surtout, j'ai remarqué un truc récemment. Je ne sais pas si c'est l'école comme elle est designée actuellement qui crée ça. Mais dans nos sociétés, le déni est totalement accepté et de façon un peu sous-jacente. On accepte que les autres soient dans le déni, on accepte de nous l'être, etc. Or, je pense qu'en tant qu'entrepreneur, le travail numéro un, c'est d'être dans une radicalité où tu refuses ce déni en permanence et tu te poses la question tous les jours. Et justement, te dire, voilà, là, je suis en compétition avec LinkedIn. Ils ont quand même un bon produit, qu'on le veuille ou non. Il y a quand même des millions de gens qui l'utilisent. Je veux aller les battre, parce que c'est ça le jeu. C'est, si tu es en compétition avec eux, c'est que tu vas aller les battre. Le facteur clé de succès ou même le jeu auquel je joue implicite que en fait, j'ai besoin d'un profil technique dans mon entreprise. Et ne pas se l'admettre ou dire « mais oui, mais ça va pouvoir passer avec un freelance », c'est être dans le déni. Et je pense que c'est l'exercice que tout le monde devrait essayer de faire chaque matin, c'est se dire, OK, quels sont les sujets dans lesquels je suis dans le déni? Peut-être que je suis mauvais en recrutement et je me l'avoue pas. Peut-être qu'en fait, je suis sur le mauvais marché parce que j'y connais rien à ce marché, il me passionne pas et en fait, je devrais faire autre chose. Et ne pas être dans le déni, c'est se faire, en fait, ce serait se faire un énorme cadeau en tant qu'entrepreneur. Ça va accélérer justement ta courbe de succès, mais je pense par 10, hein. Ouais. Parce que le déni, ça peut durer longtemps, en fait. C'est ça le problème.
C'est ça exactement et c'est pour ça que tu vois avoir un bon environnement, se faire accompagner, se poser les bonnes questions, des fois savoir prendre de la hauteur et se déconnecter du business, par exemple voilà avec différentes passions etc. comme on l'évoquait dans le passé, peut être un bon remède pour le déni selon moi.
Ouais, t'as raison. Parce qu'on fonctionne par mimétisme. Ouais. Et avoir quelqu'un en face de nous où on se dit waouh, il n'est pas dans le déni, il est radical, il ou elle d'ailleurs. Tu ne peux n'importe qui sur un laps de temps donné va être une éponge et va prendre ce trait de caractère en fait. Et cela pour l'avenir, pour le reste de sa vie en fait.
Ouais, totalement. On est d'accord là-dessus. Et un autre sujet intéressant sur lequel on peut rebondir, c'est une autre expérience entrepreneuriale que tu as eue, cette fois qui a été plutôt très intéressante. C'est à mis en place plusieurs marketplaces dans le secteur de l'événementiel et avec des chiffres plutôt intéressants, tu vas pouvoir les évoquer. Et 2 ans après le développement de ces plateformes, tu as eu une proposition de rachat, proposition visiblement que tu as acceptée. Donc là, on était sur un succès suite à la mise en place d'un projet, en tout cas comparativement au précédent dont on a évoqué. Donc, c'était avant justement The Secret Company. Est-ce que tu peux nous en dire plus à propos de cette expérience entrepreneuriale et aussi des enseignements qui en découlent?
C'est ma première vraie expérience entrepreneuriale et ça s'est vérifié dans le résultat final un petit peu. Comme tu le dis, très concrètement, j'avais arrêté ce premier projet d'application concurrente de LinkedIn. Et j'avais 6 mois de cash devant moi à peine. Après, j'étais à la rue et j'ai dû être extrêmement pragmatique, terre à terre. Et je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux monétiser? je me suis rendu compte que j'avais, parce que j'avais en parallèle de ça, vu que j'étais assez pauvre, j'étais barman tous les samedis soirs dans différentes boîtes de nuit de Paris, et qu'au fur et à mesure, j'avais rencontré, tu vois, des danseurs, des acrobates, des DJ, des photographes, bref, ce qu'on appelait des prestataires d'animation événementielle. J'avais ça dans mon téléphone, mes amis le savaient, et les amis de mes amis le savaient, et je recevais assez régulièrement quand même des SMS. Ouais, Blondie, est-ce que tu peux nous mettre en relation avec un groupe de musique de jazz, ce genre de choses. Et donc, un jour, vraiment, je ne savais pas quoi faire de ma vie. Et j'ai reçu un SMS comme ça. Je crois que c'était pour un groupe de jazz, d'ailleurs. Et je me suis dit, waouh, en fait, plutôt que de le faire comme d'habitude, à mettre en relation à la cool, bah, en fait, je peux le monétiser, ce truc-là. Parce qu'en fait, il y a une asymétrie d'informations sur le marché. Moi, j'ai des contacts que eux n'ont pas. J'ai regardé sur Internet, il n'y avait aucun Airbnb, en fait, des animations événementielles. Aucune plateforme pour booker ça. Et je me suis dit, bon, bah, très bien, je vais la créer. Donc, j'ai créé cette plateforme pour réserver des animations événementielles partout en France. C'était très divers, hein. Tu pouvais louer du manège forain jusqu'à réserver une prestation de breakdance, hein. C'était très, très, très divers, les prestations. J'ai fait ça pendant 6 mois, 1 an. Ça a cartonné. Et parce que là aussi, j'ai eu un coup de chance, mais j'ai très rapidement, vu qu'il n'y avait pas de concurrence sur le marché, mon site a très rapidement décollé en référencement naturel Google en SEO. Mmh. Et je ne savais pas du tout ce que c'était, même le terme de SEO. Je ne savais pas comment on en faisait. C'est vraiment un hasard, c'est parce qu'il n'y avait pas de concurrence. Et j'ai dû me former. Et je me suis dit, bon, bah, tiens, comment je peux être encore plus en haut de Google sur plus de pages? Et j'ai compris que c'était le facteur clé de succès de cette entreprise. Et donc, j'ai travaillé comme un malade pour devenir une bête en Google SEO. Et après, c'est une expérience qui, tous les 12 mois, en fait, je la dupliquais, mais sur d'autres verticales événementielles. Donc après, j'ai lancé une plateforme pour réserver son traiteur événementiel. Et pareil sur la location de salles, un site qui s'appelle unesalleaparis.com, pour réserver du coup des lieux événementiels. Ouais. Et sur les 4 plateformes, j'ai fini par un site qui s'appelle 1001foodtruck.com, pareil pour la réservation de food truck. Et j'ai vendu au bout de 2 ans, effectivement, la plateforme d'animation événementielle et la plateforme de traiteur.
Ok, ouais, super intéressant. Et justement, je suis allé me balader rapidement sur ces sites. Aujourd'hui, ils sont encore disponibles, sont encore actifs. Ouais. Comment ça se passe justement cette passation quand tu revends un projet comme celui-ci? Est-ce que tu es resté partiellement dedans? Est-ce que tu l'as totalement vendu? Et comment ça fonctionne?
C'est des négociations. C'est encore une fois, hein. Moi, au début, ça me faisait très, très peur, ce processus de fusion-acquisition ou de vente d'une société. Mais c'est en fait très similaire à vendre un service ou un produit. Il y a des conditions, en fait. Et dans les conditions du racheteur qui a racheté ces deux plateformes, effectivement, lui a souhaité inclure une transition avec 2-3 mois où j'étais à tiers-temps. Mais je devais accompagner, répondre à toutes les questions, aider à former ceux qui allaient reprendre opérationnellement la plateforme. Je l'ai accepté avec grand plaisir, parce qu'en plus, moi, j'avais envie qu'elles vivent, ces plateformes, qu'elles continuent de vivre et qu'elles grandissent même. Je voulais que ce soit un succès et que le racheteur en soit content et fait un rendement quelques années après. C'est le cas, je l'ai eu au téléphone récemment. Il y a des choses qui vont pas, mais il y a des choses qui vont, et globalement, il a fait un rendement. Mais oui, tu es dans un cabinet d'avocats, l'acheteur a ses avocats, le vendeur a ses avocats, et on négocie, on parle des termes, et tu donnes quelque chose, tu vas recevoir quelque chose, en face ça demande quelque chose, et tu vois si tu lâches du lest et contre quoi.
Ok, je vois. Donc ça, c'est pour les deux plateformes que tu as vendues, et les deux autres plateformes, aujourd'hui elles sont encore en activité, tu les gères encore, comment ça fonctionne?
Non, pas du tout. Moi, j'étais là pour la période de transition. D'accord. Donc j'étais là 2-3 mois, mais vraiment à tiers temps. Le deal était juste que je disparaisse pas dans la nature et que je reste réactif s'il y avait des questions, s'il y avait un besoin de formation à des outils qu'on avait développés en interne pour gérer ces plateformes de mise en relation. J'ai même été disponible plus de 3 mois. Hein. Je réponds, tu vois, j'étais réactif, j'étais dans une démarche positive. Non, moi, ça fait 5 ans que je travaille plus du tout sur ces plateformes.
Ok, je vois, très clair.
Enfin, elles sont vendues, j'ai pris mon chèque et voilà, après tu passes à autre chose, tu montres autre chose. Ouais. C'est quand même l'intérêt et l'objectif de la vente. Hein.
Ouais, non, c'est sûr. C'est sûr, et c'est aussi, le but de pas mal de fondateurs de start-up, pas tous, mais quand même une bonne partie, et justement, toi qui as été chez The Family, où justement tu accompagnais, tu aidais les jeunes entrepreneurs qui voulaient créer leur start-up, quelle est l'expérience que tu en as tirée à ce sujet? Quel est, selon toi, l'élément de motivation numéro un qui fait que certains jeunes vont choisir la voie de la start-up plutôt que la voie traditionnelle?
Il n'y en a pas qu'une seule. Je dirais qu'il y en a trois ou quatre grandes. Chacun a la sienne. Il y en a qui sont des anciens pauvres et qui veulent devenir riches, et on les comprend. T'en as qui ont justement qui sont d'anciens riches parce qu'ils viennent de familles aisées, très aisées, et qui ont des choses à prouver, qui ont un patrimoine à garder au même niveau, et qui veulent aussi, parce qu'ils ont peut-être des frères et sœurs qui ont fait des grandes carrières ou qui sont en train de faire des grandes carrières, qui sont drivés par le fait de impressionner leur famille. Il y en a qui sont uniquement drivés par le fait de devenir riche, et tu comprends pas trop pourquoi, mais ça se juge pas, ça se comprend, enfin il y a pas de souci. Il y en a qui veulent prouver des choses à leur ex et leur dire voilà, t'aurais pas dû me quitter. Il y a pas une seule raison d'entreprendre, hein. Chacun a la sienne, hein. Tu vois, moi je le fais pour m'amuser, et en fait stratégie du kiff, et parce que il y a rien d'autre qui m'amuse plus au monde que le processus de création, le processus de créativité. Chacun le fait pour ses raisons, hein, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. En fait, il y a pas de bonne ou mauvaise raison. Ils ont tous des raisons très différentes. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que démarrer une entreprise avec pour objectif initial et principal de la revendre, c'est une très mauvaise raison. C'est une très mauvaise raison pour plusieurs raisons. C'est que une vente est presque toujours, et disons à 99% des cas, hypothétique. Tu ne peux pas l'anticiper, et le viser, c'est être assuré d'échouer ou d'arrêter par fatigue ou d'être déçu. Il vaut mieux identifier un problème, vouloir le résoudre et essayer d'en vivre le mieux possible. Et après, tu le fais pour les raisons que tu veux, que ce soit impressionner ton ex, devenir riche, etc. Mais faire une boîte qui te passionne, où tu vas bâtir une équipe dont tu es vraiment amoureux, tu es content d'être avec eux au quotidien, ça va te permettre de tenir assez longtemps pour que peut-être un jour, le chaos t'amène un racheteur potentiel. Honnêtement, surtout, ce qui rend malheureux, c'est que je vois plein d'entrepreneurs qui ont essayé de qui montent une boîte en disant « dans 3 ans, je vends ». Waouh, ils vendent jamais au bout de 3 ans. ça, je te le garantis. Et quand même, ils ont une opportunité de vendre au bout de 3 ans, elle est bien moindre que ce qu'ils auraient imaginé et espéré. Parce qu'en fait, ils sont dans une position de vendeur. Donc, ils disent à tout le monde qu'ils vont vendre. Ils se mettent sur des plateformes de vente de sociétés, etc. Ils engagent des sortes de sales qui vont aller faire du démarchage. Et en fait, quand tu es dans une démarche, une posture de vendeur, bien sûr que tu vends à discount, parce que la personne en face de toi, elle l'identifie. Elle se dit, c'est bizarre qu'il soit autant en vente de sa société. Si c'est une société rare, il devrait la continuer, etc. Et donc, au final, ceux-là finissent par ne jamais vendre, parce qu'ils se rendent compte qu'ils vendent leur boîte à discount à 20-30% moins cher que ce qu'ils avaient imaginé ou ce qu'elle vaut réellement. Ça les dégoûte, et en fait, ils continuent. Sauf qu'ils continuent sur des bases qui sont pas très saines, en fait. Ils ont monté une boîte pour la revendre, alors qu'en fait, il faut monter une boîte pour l'aventure, pour le chemin. C'est d'ailleurs dans One Piece, le manga, c'est un peu le trésor à la fin. C'est qu'il n'y a pas vraiment de trésor. C'est que le trésor, tu te rends compte que il fallait kiffer le chemin, en fait. C'est l'aventure, le trésor.
Ouais, totalement. Totalement. Et en plus de ça, il se retrouve avec une boîte qui voulait absolument vendre, mais que si du coup, ils veulent maintenant scaler parce qu'ils se disent « Ok, bon, moi, je ne veux plus la vendre, je vais la développer », ils ont pitché à des dizaines ou des centaines de personnes, où ils ont été visibles auprès de centaines de personnes comme quoi ils étaient vendeurs. Quand ils vont rechercher des investisseurs, le mec, il n'a pas envie de poser des billes dedans. S'il se dit que le fondateur lui-même ne croyait plus à son projet et voulait le vendre il y a encore quelques semaines ou quelques mois. Donc,
ouais, si l'investisseur l'apprend. Ouais. Du coup, ça, je sais pas vraiment, parce que tu peux le cacher. Ce dont je suis sûr, c'est peut-être, tu vois, un de mes plus grands apprentissages de ces 3 dernières années à The Secret Company, c'est que les intentions sont pures. Si tu démarres et que tu es vraiment passionné de ton problème que tu attaques, de ton marché, et que tu te dis, je suis là pour le long terme avec cette boîte, et c'est pour ça qu'en fait, chaque personne qui remonte dans le bateau, je vais être très pointilleuse sur qui c'est, est-ce que je suis content d'être au quotidien avec. Bref, qui ont une intention pure, quelle qu'elle soit, ça finit beaucoup mieux pour eux que ceux qui ont, disons, une intention précalculée. ceux qui essayent de lire l'avenir et de manipuler l'avenir perdent toujours. Alors que démarrer d'une intention pure, qui est celle de se dire, allez, stratégie du kiff, je mise tout, je fais un projet passion, ça va me faire tenir longtemps, il leur arrive toujours des heureux hasards.
Mmh. Ouais, totalement. Je te rejoins également sur ces sujets et un autre point, dans la stratégie du kiff, pour en revenir, c'est un terme qui a beaucoup été employé, je pense qu'il est capital, il est important, voire indispensable de n'être que là où tu es bon et là où tu aimes être, dans une entité, dans un projet, dans tes structures. J'imagine que c'est ce que tu as mis en place et ce que tu fais. C'est pour ça que tu spécifiais avant avec les différents associés que tu as. Voilà, on a tous des compétences différentes. On est tous complémentaires. Et pareil, après, dans chacune des structures, il y a d'autres associés. Donc, si on prend les trois gros projets sur lesquels tu es aujourd'hui, hein, Mobula, Minéa et Freeland, est-ce que tu peux m'en dire plus à propos de justement ton implication sur chacun de ces projets? En gros, qu'est-ce que tu fais au quotidien pour chacun de ces projets? Quel est ton apport de valeur sur chacun de ces projets, sachant qu'en plus, la perception de l'apport de valeur d'un individu n'est pas corrélée au temps qu'il passe sur un projet, mais plus ce qu'il apporte concrètement. Donc justement, comment ça fonctionne tout ça? Parce qu'entre les 4-5 associés du projet 1, qui est The Secret Company, et dans chaque projet ensuite, il y a potentiellement d'autres associés à chaque fois. Donc il y a, j'imagine, une vraie réflexion, une vraie discussion, une vraie nécessité d'être complémentaire et d'avancer chacun là où il est le meilleur. Donc ça peut être intéressant que tu nous partages ta vision et comment vous vous organisez au quotidien pour ça.
Ouais, bah, je vais te donner un peu l'exemple type de qu'est-ce qu'on fait pendant 18 mois pour une startup qu'on crée from scratch. Le cas d'usage le plus fréquent, c'est qu'on a identifié une problématique marché. On a une intuition d'idée de startup, une intuition de produit pour résoudre cette problématique marché. On a une intuition sur le positionnement, sur le go-to-market, sur comment pénétrer le marché rapidement. Et on a une intuition sur le branding, tu vois. On se dit, tiens, une image de marque qui ressemble à ça, ça pourrait grandement faciliter la vie du projet. C'est le cas de Freeland. Je ne sais pas ce que tu penses de l'image de marque de Freeland, mais ce que maintenant, ils sont 5 associés. Les 5 associés nous disent tous, dès qu'on parle de Freeland, dès qu'on monte notre site web, les gens ne nous regardent plus de la même manière et ne nous parlent plus de la même manière. Ça crée de l'irrationnel et c'est de l'irrationnel qui va les aider au quotidien à recruter des meilleurs talents et plus de talents, convaincre plus facilement des clients, toutes ces choses-là.
Ah, c'est certain. Et donc nous, le positionnement, le branding, tout de suite, tu te dis, c'est sérieux, c'est solide, c'est structuré, c'est un gros projet, c'est une vision long terme. Et c'est vraiment, cet ADN startup qui apporte ça aussi, tu sais. Parce que tout de suite, tu penses grand.
Ouais, bien sûr. Voilà, et nous, c'est très processisé. Hein. On a designé, tu vois, le programme entrepreneurial qu'est The Secret Company, en tout cas pour un CEO de nous rejoindre et de monter une startup avec nous. On l'a designé un peu comme un jeu vidéo avec une grosse dizaine de levels. Il y a des rewards à débloquer. Donc, à certains moments, quand tu vois quand le CEO trouve son CTO, que ce soit nous qui ayons amené le CTO ou le CEO qui a été, tu vois, été faire un tour dans son ancienne école ou dans son groupe d'amis et qui ait ramené un CTO dans l'aventure, dans les deux cas, c'est un succès pour nous tous. Et on est dans le même bateau, on est aligné, on est associé. Donc, dans ces cas-là, il y a des rewards, on offre des cadeaux. Donc, on l'a designé vraiment, on l'a gamifié en fait. On l'a designé comme un jeu vidéo, mais dans la vie réelle. Et c'est une aventure entrepreneuriale gamifiée dans la vie réelle, très concrètement. Et en fait, ça, il y a des étapes, tu vois. Il y a l'étape de valider l'idée sur le marché, le product market fit, etc. Ensuite, on va créer la marque, peaufiner la marque. Derrière, on va améliorer le produit. Derrière, on va automatiser le maximum de processus. Et palier par palier, globalement, il y a un level par mois, quoi. Ça dure 12 à 18 mois et il y a une grosse dizaine de levels. Au bout de 12 à 18 mois, normalement, il y a une société qui est soit rentable, autofinancée, soit qui peut décider de lever des fonds et beaucoup de fonds. En général, nous, on fait passer nos projets directement à la série A. On leur fait sauter le seed, entre guillemets. Enfin, la première tranche de levée de fonds, ils n'en ont pas besoin parce qu'ils ont déjà des revenus, ils ont des chiffres impressionnants en général. Et on les emmène direct à la série A. À ce moment-là, on va les aider à lever cette série A, s'ils le souhaitent. Mais s'ils veulent rester autofinancés, ça nous va aussi. Mais donc, c'est très personnalisé. On fait beaucoup de travail jour et nuit avec les entrepreneurs sur leur formation, sur est-ce qu'ils vont bien psychologiquement. On fait beaucoup de soutien psychologique. On fait beaucoup d'off-site. Tous les mois ou tous les deux mois, on est en séminaire une semaine ou un week-end avec ces entrepreneurs pour, tu vois, on va les aider à recruter, manager, gérer leurs relations avec leurs associés. On fait vraiment tout, tu vois. Le positionnement du Secret Company, c'est d'être le quatrième co-founder. En général, on trouve un CEO, il trouve un CTO, on ramène un CMO et derrière, nous, on est le quatrième co-founder et on a 25% des parts de la société. C'est notre modèle. Et en tant que quatrième co-fondateur, co-fondateur un peu secret, co-fondateur un peu plus expérimenté, on va jouer ce rôle aussi de les conseiller au quotidien, mais les 6-8 premiers mois, c'est vraiment des mains dans le cambouis. On va designer le produit avec eux, on va closer les clients avec eux, mais petit à petit, on s'efface parce que on ne doit pas devenir un facteur de risque pour le projet. Parce qu'on sait qu'on va sortir de l'opérationnel au bout de 12 à 18 mois, quand on jugera que c'est le bon moment. Et souvent, soit dès que nos deux événements où on sort opérationnellement des entreprises, c'est soit l'entreprise a atteint 100 000 euros de revenus récurrents mensuels, et donc a un niveau de revenu d'une société solide, soit à lever des fonds. Et là, au moment où elle a levé des fonds, bah, il faut recruter, il faut accélérer, elle a plein de problèmes, et les entrepreneurs, en fait, n'ont beaucoup moins de temps pour travailler avec nous. C'est les deux événements où on sort de l'opérationnel de ces sociétés-là, mais il faut le faire en douceur. Et ça, pour le coup, je l'ai appris dans le dur ces trois dernières années. C'est le métier de startup CEO que je ne connaissais pas initialement et que j'ai dû apprendre sur le terrain. C'est qu'il faut sortir intelligemment de l'opérationnel et de façon indolore pour ne pas mettre à risque le projet. Parce que c'est ça le fond du sujet.
Et est-ce que tu as déjà fait face à ce genre de situation, ou alors tu l'as déjà anticipé ou autre, mais tu vois, quand tu vas sortir totalement de l'opérationnel, par rapport au fait que, voilà, imaginons, t'as donné limite le biberon au projet pendant un certain temps, etc., et grâce à ça, le projet s'est lancé ou autre, et les gens ont été habitués au fait que tu l'es... Donc, je dis tu, mais je sais que c'est toute une équipe, c'est toute une structuration, c'est tout un programme, qu'on soit d'accord. Hein. Mais voilà, vous avez mis en place un carcan pour leur permettre d'être là où ils ont 100. Là, vous sortez de l'opérationnel, mais vous gardez encore les 25% et donc vous récoltez encore le fruit. Est-ce Bien que sûr. Dans ce cas-là, il n'y a pas un risque que le projet, les entrepreneurs en question se disent « Attends, mais... ton implication n'est plus du tout la même, ce que vous apportez, c'est plus du tout la même chose, il faut qu'il y ait une redéfinition des parts parce que l'apport de valeur n'est plus le même et les proportions ne sont plus les bonnes. »
Oui, ça se règle très simplement. Ça se règle en faisant signer un papier au démarrage de la collaboration qui dit concrètement ce qu'est The Secret Company, qu'est-ce qu'on va faire et qu'est-ce qu'on ne va pas faire, qu'est-ce qu'on peut attendre de nous et qu'est-ce qu'il ne faut pas attendre de nous? Par exemple, ce qu'on dit très clairement, ce qu'il ne faut pas attendre de nous, c'est qu'on soit le CEO de l'entreprise à la place des CEO. Et c'est pour le coup un travail d'artisanat qu'on fait à The Secret Company. Tu vois, même c'est hyper risqué comme jeu. Tous les 18 mois, on crée 2 à 3 nouveaux projets. C'est minime, hein, 2 à 3 nouveaux projets. Il ne faut pas se rater. C'est vraiment un travail d'orfèvre. Et ce travail d'orfèvre insinue que justement, c'est un art d'arriver à ne pas justement trop biberonner les projets, mais on est en créant de la valeur quand même, et de pouvoir sortir de l'opérationnel crescendo entre le 12e et le 18e mois sans devenir un facteur de risque pour l'entreprise. Mais donc, comme je te dis, ça se règle avec, en clarifiant au démarrage de la collaboration, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on ne va pas faire, qu'est-ce qu'on peut attendre de nous, qu'est-ce qu'on ne peut pas attendre de nous. Et aussi, tu vois, définir en amont tous ces ownerships, quoi. Qui est le CEO, nous, quel sera notre rôle passer ces 18 mois, comment on peut apporter de la valeur autrement une fois qu'on n'est plus dans l'opérationnel? Ça peut être via des mises en relation, en aidant à la levée de fonds, ça peut être via de la communication. Quels outils de leverage aussi on peut créer The Secret Company en tant qu'écosystème pour aider nos projets une fois qu'on n'est plus dans l'opérationnel? Il y a plein de moyens de le faire. Hein. Tu peux créer des outils, tu peux créer du logiciel, tu peux créer de la tech pour les aider. Tu peux créer des pools de talents de recrutement dans lesquels eux, ils viendraient juste piocher, c'est-à-dire c'est de la valeur énorme instantanée et toi, en tant que structure, tu ne travailles pas opérationnellement pour ça. Donc, ça passe par faire des podcasts, par exemple, comme avec toi, Alec, où tu vas faire connaître la marque The Secret Company, toutes ces choses-là. Mais de façon générale, c'est clarifier les choses au démarrage. C'est bien de faire comprendre qu'au bout de 18 mois, on ne sera plus dans l'opérationnel. Ça n'est pas notre rôle. Nous, là où on excelle, c'est les 12-18 premiers mois. Après, c'est pas le jeu qu'on aime, c'est pas là où on excelle, et c'est souvent aussi, dans le cas des startups, des investisseurs qui vont reprendre ce flambeau au bout de ces 18 mois. C'est aussi ça l'intérêt. Mais je te le confirme, hein, c'est un gros sujet, d'autant plus quand la valeur est mesurée à qui passe le plus de temps à la machine à café. Voilà, moi, je n'ai pas envie de passer du temps à la machine à café. Moi, je suis là pour sortir de terre des nouvelles entreprises. Donc maintenant, on l'a réglé. Pour le coup, on a pu avoir des problèmes par le passé avec ça, pour être franc avec toi. Mais maintenant, on l'a réglé par de la full transparence écrite et signée en amont, comme Impact.
Totalement, totalement. Je te pose cette question parce que moi-même, j'ai fait face à ce type de problématique. Et, et du coup, je pense que tout type d'entrepreneur qui, à un moment donné, va se positionner en accompagnant ou en aidant les entrepreneurs à performer avec des deals de ce type, va y faire face si en amont, il ne s'est pas enrichi d'expériences un peu moins positives ou alors d'expériences moins positives d'autres personnes. Donc ouais, je te rejoins,
ouais.
Être carré, c'est capital.
Et puis, non mais après, c'est aussi compréhensible. Tu vois, les humains oublient et oublient tout le temps passé ensemble, toute la valeur que tu as pu apporter, etc. C'est pour ça que c'est bien de cadrer les choses, d'être transparent en amont, de rappeler les choses, de lister ce qui a été fait et pas fait. Et voilà. Et après, je pense qu'aussi, il y a une grosse différence, c'est que nous, on n'a pas un métier d'accompagnateur. On n'est pas un incubateur, un accélérateur ou un advisor. On est des créateurs. On co-crée les projets. On est à l'origine des problématiques ou des idées, on crée les brandings, on design les produits, on n'est pas juste accompagnateur, on crée des boîtes. Notre métier, c'est de créer des fondations solides pour qu'après, des entrepreneurs, post 18 mois, puissent continuer 10 ans et créer des immeubles gigantesques, concrètement. Mmh. Et donc, il y a aussi cette chose-là, c'est que un accompagnateur, un advisor, c'est toujours compliqué, comme tu dis, de mettre le curseur sur la valeur qu'il a créée.
Totalement.
Maintenant, sur un créateur, c'est en général beaucoup plus concret. Hein. Genre, quand tu as designé le produit, enfin voilà, ta valeur n'est pas remise en question.
Mmh. Ouais, je te rejoins tout à fait également là-dessus. Un autre sujet, tu disais en début de podcast que The Secret Company, c'est à peu près une trentaine de projets qui ont testé, en tout cas, de se confronter au marché. Aujourd'hui, c'est trois entités qui vraiment sont mises en avant et qui, j'imagine, performent. En tout cas, connaissant Minéa, connaissant Freeland et imaginons aussi la dernière structure au niveau de la DeFi qui est Mobula. J'avais oublié le nom. Justement, j'imagine que ça cartonne. Mais par contre, les 27 autres projets, il y en a peut-être certains qui aujourd'hui ne sont plus d'actualité, qui ont été arrêtés pour différentes raisons. Qu'est-ce qui diffère les trois projets successful que je viens de citer précédemment et les 27 autres qui peut-être, dont certains, ont été avortés parce que ils ne pouvaient pas justement aboutir à un succès derrière. En gros, les enseignements qu'on en tire, et puis s'il y a deux, trois bonnes pratiques à partager, avant une dernière question que j'ai à te poser, ça peut toujours être intéressant pour ceux qui nous écoutent.
Ouais. Alors, je t'ai cité Freeland et Mobula parce que c'est les projets de cette année. Moi, j'estime que là, tu vois, c'est notre troisième année. On n'a jamais aussi bien fait notre travail que ces 12 derniers mois. Je pense qu'on a enfin compris le jeu auquel on jouait, de ce qu'était de bien faire son travail quand on a un startup studio. Je crois énormément en Freeland et Mobula. On est hyper heureux et fiers de faire ce qu'on a fait avec eux. On aime profondément les équipes cofondatrices. Tu vois, c'est un truc que je me disais récemment, c'est est-ce que je pourrais partir en vacances avec eux hors d'un cadre pro? Et oui, 100%. Genre, ils font partie de ma vie, c'est des amis. Donc ça, c'est un critère important. Mais on n'a pas que Freeland et Mobula dont on est fiers et qui fonctionnent. Hein. Je te parlais de Minéa qui date plus de 24 mois. Mais c'est sûr que sur 30 projets testés, il n'y en a que 10 qui sont en vie. Et sur les 10, nous, tu vois, il y en a 5 dans notre portfolio qu'on estime être des stars. Donc des stars, pour nous, c'est quoi? C'est des boîtes dont on pense que la vision est une vision d'avenir et des projets qui sont toujours en croissance depuis des années. Donc il y a 5 boîtes dans notre portfolio dont on estime que sont ce que nous on appelle des stars dans notre portfolio. Qu'est-ce que je pourrais te partager qui est un apprentissage de ces 30 projets testés? La première chose, c'est que la résilience, et c'est un peu bullshit, mais la résilience, ça paye. Il y a beaucoup d'entrepreneurs que j'ai vus au bout de 12 mois, tu vois, être un peu découragé, être un peu fatigué, se demander si ils faisaient bien les choses, est-ce qu'ils étaient des bons entrepreneurs, qui remettaient un peu tout en question. Et ça m'est arrivé aussi personnellement au bout de 12 mois de Secret Company. En fait, bien faire quelque chose, bien maîtriser une compétence ou bien faire son travail, j'ai réalisé que ça prenait 10 ans. Et d'accord, on peut ne pas l'accepter, mais on ne fait bien son travail qu'après l'avoir fait pendant 10 ans. Et c'est long, 10 ans, mais le premium à arriver au bout de ces 10 années vaut les nuits les nuits blanches, les doutes, les incertitudes, la fatigue, tout ça. Et il faut pas hésiter à prendre des vacances. Il faut pas hésiter à avoir des advisors, des mentors, des gens en qui on a confiance pour parfois nous sauver la mise ou nous remonter le moral. Mais ma conclusion de Secret Company, et parce que à titre perso, j'ai failli arrêter 2 fois, mais je n'ai pas arrêté. Je n'ai jamais été aussi heureux qu'aujourd'hui de ne pas avoir arrêté. Je ne sais pas ce que je ferais de ma vie, mais aujourd'hui, je peux le dire, si j'avais arrêté il y a 1 ou 2 ans de Secret Company, ça aurait été une perte monumentale. Je suis trop heureux aujourd'hui, j'estime qu'on fait bien notre métier, enfin, et je pense continuer longtemps. Donc tu vois, il faut accepter que les choses prennent du temps. Là, sur les réseaux, en plus LinkedIn, YouTube, on parle que d'overnight success, de chiffres incroyables en un temps record. Non, les choses prennent du temps, acceptez-le et accrochez-vous. En tout cas, si vous êtes assez passionné. Le deuxième apprentissage, c'est que quand vous êtes à votre place et quand vous faites la chose que vous devez faire dans votre vie et la chose pour laquelle vous êtes faite, vous le sentez au fond de vous. Moi, actuellement, je sens que je n'excellerai à rien d'autre que The Secret Company. Je suis très défocus, j'adore le chaos, mon jeu préféré c'est la création, la créativité. J'ai un luxe incroyable, c'est que je peux jouer à ce jeu 3 fois par an tous les 12 à 18 mois. Il n'y a nulle part ailleurs où je pourrais vraiment jouer à ce jeu là, mais vraiment de bâtisseur, hein, pas juste avoir des idées de projet, c'est avoir des idées et les bâtir pendant 12 mois. Et je l'ai eu avec beaucoup d'entrepreneurs, tu vois, tu prends les équipes de Freelance, Corentin, Sacha, Benjamin, Thibaut et Flo. Tous, ils ont une histoire avec l'éducation qui est assez marrante. Il y a 2 drop-out sur les 5 associés dans l'équipe. Et il y en a un, Benjamin, le CMO, qui a été en centre d'entraînement de foot, tu vois, qui n'a pas fait des longues études parce qu'elles étaient des études sportives. Et en fait, ils ont tous une relation très particulière avec l'éducation. Ils n'ont pas fait des grandes écoles. Ils sont un peu énervés contre les grandes écoles qui parfois les ont recalées. Ils se sont beaucoup formés sur Internet. Et tous, même s'il y a des mois où c'est plus dur que d'autres, parce qu'il y a des projets que tu testes qui sont des échecs, je pense qu'ils vont continuer longtemps parce qu'ils sont passionnés du sujet, ils sont passionnés du crew qu'ils ont commencé à créer, de leur équipe, et qu'ils sentent qu'ils sont au bon endroit où ils doivent être. Et ça, c'est un problème incroyable. Parce que quand les temps sont durs, quand il y a des tempêtes, si tu te dis, de toute façon, je pourrais rien faire d'autre, et je serais nul ailleurs, et là, je sais que je vais finir par être bon, même si ça prend du temps, ça te donne le supplément d'âme qu'il faut pour continuer et écrire une belle histoire. Et je pense que c'est ces 2 trucs-là qu'il faut arriver à cultiver. 1, la résilience. 2, analyser sa propre histoire pour comprendre est-ce que l'entreprise que vous montez actuellement est un peu le recoupement des chemins de toute votre vie, quoi.
Ouais.
On l'a théorisé un peu chez The Secret Company, si tu veux. On appelle ça le super pouvoir secret. Okay. Ça peut être une compétence soft ou hard. Ça peut être... une industrie dans laquelle vous avez travaillé et que vous aimez bien ou que vous connaissez vraiment dans ses moindres détails. Ça peut être un accès marché parce que, je sais pas, votre oncle a un pied dedans et donc vous avez un premium à accéder à ce marché. Ça peut être même juste une énergie ou ça peut être plein de choses, ce super pouvoir secret. Mais en général, c'est le travail qu'on fait. Hein. Genre, on regarde en façade et on se pose la seule question qu'on se pose quand on rencontre des potentiels CEO avec qui on pourrait monter des entreprises, c'est est-ce qu'ils pourraient faire l'amour avec leur marché ou avec le marché, enfin quel est le marché avec lequel on les verrait bien faire l'amour. Et en général, c'est hyper parlant. Et c'est un travail qui est un peu un travail de conseiller d'orientation nouvelle génération où tu vas analyser l'histoire des personnes que tu as en face de toi et les emmener sur un chemin où c'est là ce que vous, justement les infopreneurs et les dropshippers appellent la zone de génie. C'est vraiment ça au final le super pouvoir secret.
Totalement. Super intéressant. Super intéressant. J'ai bien fait de te poser cette question. Ça permet d'introduire parfaitement la suite et la dernière question que je pose à chaque fois à toutes les personnes qui sont présentes sur le podcast Le Déclic.
Ouais.
C'est en gros, voilà, si tu avais un déclic ou un élément qui, d'un point de vue personnel ou professionnel, a réellement créé une transformation limite identitaire en toi et que tu as absolument envie de partager à celles et ceux qui nous écoutent aujourd'hui, lequel est-ce ? Que ce soit une simple phrase, une citation ou même un enseignement de la vie, tu as vraiment carte blanche, fais-toi plaisir.
Ouais. Il y a quelque chose que je partage à tous les entrepreneurs avec qui on travaille, et je, plus que partager, hein, je m'efforce à arriver à ce qu'ils se l'appliquent, parce que ça change la vie, et ça m'a changé la vie. Comme toute bonne personne défocus, artiste, créative, je peux avoir tendance à m'éparpiller, et comme je suis plutôt dans un mindset de sportif de haut niveau et de gagne, je peux penser que je peux tout gérer à la fois. Et en fait, un jour, un entrepreneur m'a donné un très bon conseil. Il m'a dit, tu sais, Max, dans la vie, il y a 5 grands piliers. Donc, ta famille historique, l'amour, ça peut être ta femme, ton mari, les amis, le travail et la passion. La passion, ça peut être jouer de la guitare, faire du sport, bref, ta passion. Et en fait, sur ces 5 piliers, si tu veux faire quelque chose, disons, de bien, de moyen, d'être dans la moyenne, il faut que tu arrives à définir quels sont les 3 sur lesquels tu vas mettre ta concentration. Et ça ne veut pas dire que les 2 autres, tu vas complètement les éluder, ça serait malsain, mais tu vas beaucoup moins t'en occuper et tu vas être à l'aise si ces personnes-là, par exemple, si tu dis, voilà, je ne sais pas, mes amis, ce n'est pas mon focus en ce moment, sur les 5 prochaines années ou sur les 10 prochaines années. Bien sûr qu'il faut voir ses amis de temps en temps, mais si eux viennent te voir en disant « Ouais, on te voit beaucoup moins qu'avant, qu'est-ce qui se passe, tu nous oublies, t'as géchant, t'as changé », ben en fait, tu vas être hyper à l'aise de leur dire « Ouais, je sais, je suis désolé, j'en suis conscient, c'est mon choix, j'ai besoin de me concentrer sur d'autres choses là en ce moment et j'en suis vraiment désolé ». Et au fond, ça règle beaucoup de problèmes parce que ces personnes-là, elles te font un reproche, que ce soit ta famille, tes amis, ta copine, ton copain, qui te font un reproche que tu passes pas assez de temps avec eux, que tu leur apportes pas assez d'attention. C'est juste le signal de tu es un de leurs 5 piliers et en échange, ils sentent pas que tu es un de leurs piliers de vie, les piliers structurants. Et leur clarifier que non, ils ne sont plus un de tes points de focus du moment, c'est en fait leur faire un énorme cadeau et te faire un énorme cadeau à toi. Ils vont arrêter de se concentrer sur toi, ils vont faire d'autres choses et toi, en fait, tu pourras beaucoup plus sereinement ne plus te concentrer sur eux. Et ça, c'est pour être dans la moyenne. Si tu veux faire quelque chose d'assez grand quand même, si tu veux réussir ta boîte concrètement, il va falloir que tu choisisses les 2 piliers sur lesquels tu choisisses de te concentrer. Ça peut être ton entreprise et ta copine ou ton copain. Et alors là, c'est un jeu un peu plus pour des personnes très singulières. J'appelle ça moi des Cristiano Ronaldo et des Messi. C'est pas fait pour tout le monde, mais il y en a qui se concentrent que sur un des piliers. En général, c'est leur boîte ou s'ils sont sportifs, ça va être leur passion, leur sport, quoi. Et là, tu peux faire quelque chose de légendaire. Mais accepter que tu n'as que 24 heures dans la journée et qu'il faut choisir ses combats, et le clarifier, hein, ne pas être dans le déni et se mettre hyper au clair sur quels sont tes 2 piliers focus et quels sont les 3 avec lesquels tu es à l'aise de leur dire « je suis désolé, vous n'êtes pas ma priorité ». Ça te facilite grandement la vie. T'as plus à te justifier de rien de personne. Toi, tu sais ce que tu veux faire. Tout le monde sait quels sont tes focus. Et c'est s'assurer le succès. Moi, en tout cas, ça m'a beaucoup aidé.
Eh ben, figure-toi que c'est très drôle parce que en t'écoutant, j'avais jamais forcément conscientisé ce point-là ou autre, même si j'en avais déjà entendu parler, mais je me rends compte que c'est exactement ce que j'ai inconsciemment dû mettre en place, dû appliquer pour pouvoir avancer. Donc avec 2 focus et 3 on va dire secondaires, 2 primaires, 3 secondaires, et je peux que rejoindre parce que quand tu cherches à avoir un équilibre parfait, finalement, comme tu dis, voilà, t'es moyen voire mauvais un peu partout.
Ouais, exact.
Et voilà, si tu veux des résultats extraordinaires, il faut absolument faire des actions et prendre des décisions extraordinaires. derrière, sinon malheureusement ça n'aboutira pas à grand chose. Écoute, Maxime, Blondie, franchement, c'était super, super épisode, ça m'a fait super plaisir et j'espère que vous avez eu au moins autant de plaisir à écouter ce podcast que je n'en ai eu à l'animer. Si c'est le cas, faites-le nous savoir avec 5 étoiles sur les plateformes de podcast et en partageant partout autour de vous cet épisode. En tout cas, moi, franchement, j'ai passé un excellent moment, Maxime. Merci encore pour ton temps. Et, et puis surtout, on va suivre The Secret Company sur les années à venir. On va suivre les différents projets que vous propulserez à chaque fois tous les 12-18 mois. Et on va suivre de près tout ça et on se revoit très bientôt à Paris ou à Dubaï avec grand plaisir.
Merci Alec, salut, bye bye.
À bientôt, ciao ciao.